Vous écoutez le podcast Entre les deux oreilles. Le balado en santé mentale et santé mieux-être. Une présentation de Relief. Un organisme qui vient en aide aux personnes avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Relief, le chemin de la santé mentale. Voici vos animateurs. Ils sont tous les deux des visages de la santé mentale et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro, épisode 31 du balado en santé mentale et santé mieux-être entre les deux oreilles. Qu'est-ce qu'un gestionnaire humain? En fait, j'ai lu un article récemment sur le site de Radio-Canada qui disait que la tendance en 2023, c'était d'être humain comme gestionnaire, comme cadre, comme chef d'équipe, comme toute personne en position de leadership dans une entreprise. Mais je me suis dit, en même temps, c'est un peu ironique parce qu'on est tous des humains. Hein? Je pense que je ne vous surprends pas ici. Mais la tendance, comme je le mentionnais, c'est d'être un gestionnaire humain. Alors, j'ai décidé d'en parler avec un ami, en fait, une personne que je connais bien, même un expert en la matière, Pierre-Luc Labbé, qui est président et CEO de la compagnie ROM, une compagnie en ressources humaines. J'ai voulu en discuter avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour transformer un gestionnaire en humain, en fait? Comment on le rend plus humain? Comment on le crée, ce gestionnaire? Comment on le moule? Est-ce qu'il y a une recette magique? Est-ce que c'est un one size fits all? On va parler également d'authenticité, de vulnérabilité. Donc, on parle de plein de sujets. Une émission vraiment qui s'adresse à tous, mais plus particulièrement aux gestionnaires et aux cadres dans les entreprises. Donc, tout de suite après la pause, Pierre-Luc Labbé de ROM. On discute de leadership. On discute de vulnérabilité, d'authenticité, de transparence et du fait d'être humain en tant que gestionnaire en 2023. Bonjour tout le monde, j'ai le grand plaisir de recevoir pour le 31e épisode du podcast en santé mentale et santé mieux-être entre les deux oreilles, Pierre-Luc Labbé, fondateur de ROM, ressources et humains. J'adore le titre de ton entreprise. Pierre-Luc, bienvenue. Comment vas-tu?
Ça va pas pire. Et toi, Martin?
Oui, tu disais que tu étais en fin de COVID, donc tu me donnais déjà un petit avertissement qu'il y avait peut-être des atchoums ou
des atchoums. Oui, exact.
Ben, un double merci parce que tu as la grande gentillesse d'avoir accepté l'invitation. Sache que je l'apprécie beaucoup. On se connaît, on a déjà participé, toi et moi, à des panels de discussion sur la santé mentale, sur la santé bien-être en milieu de travail. Mais cette semaine, j'ai vraiment pensé à toi parce que je suis tombé sur un article de Radio-Canada qui parlait, entre autres, que le gestionnaire de 2023 devait être humain. Point. Puis là, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, oui, j'adhère, ça a du sens, je pense qu'on est rendu là, mais c'est quoi être humain comme gestionnaire? On est déjà des êtres humains, mais comment on devient un être humain gestionnaire ou un gestionnaire humain? C'est difficile à comprendre. Puis je suis curieux de savoir, c'est quoi ta perspective par rapport à ça?
Oui, puis c'est drôle, j'ai eu un débat avec mon équipe aujourd'hui à ce sujet-là en préparation du podcast parce que c'est une question tellement vaste qu'on parle aujourd'hui. Tu sais, c'est à la mode de parler d'humanité, d'approche humaine, de choses humaines, des articles humains, des tendances humaines, mais en gros, ça veut dire quoi? Tu sais, puis je pense que, bon, je viens avec plein de chapeaux ici, là, tu sais, je suis entrepreneur d'une gang de 20 personnes de plein d'âge et de backgrounds différents et de nationalité et de point de vue culturel, c'est assez coloré chez nous, fait que j'ai beaucoup de points de vue par rapport à ça, mais j'ai aussi mon background de spécialiste en ressources humaines et tout récemment coach, fait que j'ai comme plein de perspectives à partager aujourd'hui sur ce sujet-là qui me passionne beaucoup, puis c'est drôle, moi ce qui m'allume et ce qui m'a un petit peu interpellé quand tu me parlais de ça, là, un petit peu plus tôt par courriel, c'était la partie « comment on devient ». Puis c'est ça que je trouve intéressant parce que je rencontre tellement de gestionnaires qui ont peut-être une estime d'eux-mêmes qui est un petit peu moins haute, puis qui arrivent vers moi puis qui me disent hey, moi, je peux pas être gestionnaire parce que je suis pas extraverti. Ou je peux pas être gestionnaire parce que je suis trop sensible. Ou je peux pas être gestionnaire parce que justement, j'ai peut-être un trouble de santé mentale, ou je vis une situation d'handicap, ou j'ai pas assez d'expérience. Bref, les gens se jugent eux-mêmes par rapport à c'est quoi un gestionnaire, puis ils ont cette espèce de photo parfaite du gestionnaire charismatique, sûr de lui-même ou d'elle-même, qui prend les devants, qui est toujours en forme. Puis ça, c'est un petit peu un concept arriéré, je trouve. Puis quand on parle, pour moi, en tout cas, de gestionnaire humain, un gestionnaire humain, c'est un petit peu le principe de l'avion. T'sais, on prend soin de soi-même avant de prendre soin des autres. Puis, je trouve que la base d'un gestionnaire humain passe par la connaissance de soi-même. Quand on prend connaissance de nos limites, de nos biais, de notre background, de nos traits de personnalité, de nos angles morts, puis qu'on est capable par la suite de, ben, premièrement, de les exprimer, ces choses-là. On peut, premièrement, s'entourer aussi des personnes qui viennent être complément à nous par rapport à notre style de leadership, mais ça fait en sorte aussi qu'on est capable d'exercer un leadership qui nous ressemble versus à ce que ça ressemble sur le poster ou dans le livre ou dans le cours là, qui va vous dire qu'un gestionnaire devrait être ABC et communiquer de façon ABC. Fait que je trouve que d'approcher le leadership par l'humanité passe par la connaissance de soi-même, l'autogestion. Puis de développer ces outils-là que nous, on a besoin. Puis moi, je connais des personnes qui sont introverties sur le spectre de l'autisme, neurodivers, qui sont des excellents gestionnaires parce qu'ils se connaissent eux-mêmes. Fait que déjà là, ce côté-là, là, comment on devient un gestionnaire humain, je trouve que c'est une question super intéressante, puis qui peut être très intimidante pour plusieurs personnes, mais qui, en fin de compte, passe simplement par la connaissance de soi-même.
Ben justement, ça me parle parce que tu parles que c'est intimidant. Et je suis d'accord avec toi parce que quand j'ai lu l'article, je me suis senti intimidé d'une certaine façon parce que je trouvais que on essayait de rentrer le gestionnaire dans un moule, one size fits all, machine à saucisse. On doit toutes les sortir un à la suite de l'autre pour qu'on soit tous des gestionnaires du même moule. Toi, tu apportes une vision différente, c'est de prendre ton authenticité et de transposer ça en une gestion qui t'appartient, qui te ressemble. Est-ce que c'est un peu sur cette piste-là que tu nous amènes? Est-ce que tu parles d'authenticité, dans le concept qu'on est en train de parler en ce moment?
Absolument, les termes d'authenticité puis de transparence sont des choses qui reviennent beaucoup. Tu sais, on pense souvent aussi à ce que les gestionnaires devraient communiquer aussi en tant que leader. Tu sais, est-ce qu'on dit quand ça va pas? Est-ce qu'on est transparent aussi par rapport à qui on est, comment on arrive le matin? Puis, comme je disais, j'arrive avec plusieurs chapeaux, mais je pense on avait déjà échangé là-dessus au moment où j'avais parlé de ma santé mentale aux nouvelles par rapport à mon anxiété, tu sais, puis je trouvais que c'était quand même contre-intuitif en tant que leader par rapport à moi, par rapport aux gens qui m'entourent, avec ce que je veux projeter en tant que leader aussi et en tant qu'entrepreneur, tu sais, est-ce que je fais une erreur de me dévoiler comme ça par rapport à mes propres défis, puis en fait moi ce que j'ai découvert à travers ce parcours de partage-là, puis de un petit peu de communiquer qui je suis vraiment a fait en sorte qu'il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes face à mon équipe, face à des clients potentiels que ça les a parlé, puis que sont venus vers moi, puis que ça m'a apporté plein de choses, puis à juste des êtres humains que je rencontre sur mon parcours qui viennent vraiment enrichir cette conversation-là, tu sais, des fois d'essayer de projeter une image parfaite peut être bourré de pièges parce que les gens se sentent jamais à la hauteur de ce qu'on veut projeter. Moi, à partir du moment où j'ai dit que j'allais un petit peu moins bien, il y a des personnes dans mon équipe qui ont levé la main, moi non plus. Puis je trouve que ça fait en sorte qu'on crée un dialogue, puis versus. Puis j'ai travaillé la thérapie sur moi-même, puis du coaching avec des personnes exceptionnelles qui m'entourent. Puis on avait une image que je suis passé de seul en haut de ma tour à chorégraphe. Puis ça, cette image-là, je trouvais que c'était super puissant, puis ça parle beaucoup. Justement, donc c'est quoi un chorégraphe? ça parle de ses émotions, mais c'est toujours au devant. Tu sais, il y a une différence aussi quand on parle de nous, puis on partage, puis on s'ouvre entre partager et déverser. Quand on parle de stress, d'anxiété, de pression, d'incapacité, tout ça, il y a une différence à comment on arrive avec ce sujet-là à table. Puis je pense que les compétences de leadership, c'est là où ils viennent un petit peu émerger, où est-ce qu'on est en mode solution, on travaille avec, puis on bâtit, versus un petit peu dans le déni ou d'avoir une photo qui n'existe pas vraiment dans le fond.
De parler de leadership, c'est quoi un leader en 2023?
Je pense qu'un leader en 2023 est transparent.
Okay.
Je parle beaucoup de transparence à tous les niveaux, là. J'ai un article que j'ai écrit dans la presse qui s'appelle La transparence radicale, où est-ce que je pense qu'on doit apporter la transparence à plusieurs niveaux. Puis là, je parle plus dans un milieu de travail en particulier, là. Je pense que
Ouais.
d'ouvrir les portes à nos pratiques d'affaires, à pourquoi on prend les décisions, au partage des responsabilités, à la transparence salariale, à la transparence dans les parcours de progression de nos employés aussi. Donc, je pense que un employé mobilisé est un employé qui sait exactement où il se situe au sein de l'organisation. Il sait exactement c'est quoi les moyens qui sont à sa disposition pour pouvoir bien performer puis être bien. Puis il sait exactement comment cette personne-là est supportée aussi dans l'organisation. Puis ça, selon moi, ça passe par la transparence. Donc d'être transparent par rapport à qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, sont source d'une mobilisation puis d'une motivation de la main-d'œuvre, selon moi, en 2023.
Avec transparence, est-ce que je me trompe si je trouve un synonyme de transparence qui serait comme par exemple communication, donc communiquer, mieux communiquer, parce que tu peux être transparent sans nécessairement communiquer de façon adéquate à ton équipe. Donc, je pense que ça devrait être la qualité numéro un ou l'une des qualités les plus importantes d'un leader de 2023, sa capacité de communiquer de façon transparente avec ses employés, n'est-ce pas, ou c'est pas le cas?
Oui, absolument. Puis, il faut aussi, en tant que leader, adapter son discours par rapport à son auditoire. Tu sais, moi, je communique pas la même information à un stagiaire que je communique à quelqu'un qui est dans un poste de direction, par exemple. Donc, la même information peut être communiquée d'une façon différente par rapport à son auditoire, puis d'être capable de s'adapter à ça aussi fait en sorte que qu'on est capable justement de donner la bonne information pour mobiliser les gens. Quand je parlais de déverser versus partager, mais je pense que la ligne est là justement, à qui on s'adresse, puis aussi de se mettre dans le siège de l'autre personne en disant comment j'aimerais recevoir cette information-là si j'étais dans l'autre siège. Là, on parle plus de technique de coaching, mais tu sais, comment
Ouais.
les gens, c'est des personnes intelligentes avec qui on travaille, qu'on est capable de communiquer, mais faut pas non plus prendre les gens pour ce qu'ils sont pas, puis d'être capable de leur partager la bonne information. Ça me parle aussi beaucoup au niveau des façons de communiquer entre les générations. Tu sais, il y a beaucoup de gestionnaires à qui je parle en ce moment qui se sentent un petit peu seuls par rapport à ces conflits générationnels-là, puis ils ont beaucoup de mots colorés à dire par rapport à la génération qui arrive sur le marché du travail. Tu sais, puis moi, j'enseigne à l'université aussi, puis j'apprends tellement des étudiants autant qu'ils apprennent de moi, puis sinon plus, là. Puis je trouve qu'il y a ce conflit générationnel-là passe aussi par la transparence, puis d'ouvrir ces canaux-là. Puis cette main-d'œuvre-là veut complètement autre chose que la main-d'œuvre voulait sur le marché du travail il y a 20 ans. Donc, cette transparence-là est un bon outil aussi, justement, de briser cette solitude-là au niveau des gestionnaires, puis de rétablir les liens de communication qu'on a avec les équipes, peu importe leur âge.
C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que récemment, je pensais à Monsieur Portelance. Je te présente Monsieur Portelance qui était un de mes premiers gestionnaires quand j'avais 18 ans. Dans un Woolworth, ça peut dire mon âge, là, les vieux magasins Woolworth. Et j'imaginais Monsieur Portelance aujourd'hui dans le nouveau contexte de gestion 2023. Tu parlais d'authenticité, transparence, vulnérabilité. Puis je me disais, oh my God, comment un gestionnaire de ce type survivrait aujourd'hui dans ce nouveau contexte-là? Mais il y en a encore des gestionnaires qui sont peut-être, je veux pas dire plus âgés, mais qui ont une certaine expérience, qui sont confrontés, tu parles de conflits intergénérationnels, Qu'est-ce qu'on fait avec ces gestionnaires qui ont une bibliothèque de connaissances? Ils ont vécu dans des entreprises toutes les crises potentielles, les bons côtés, les mauvais côtés. Ils sont vraiment, ils ont de la valeur, mais comment on les amène à se transformer? Comment on fait pour travailler avec ces générations-là?
Oui, ben moi je trouve que puis c'est pas juste propre à une génération. Je pense que les personnes dans le milieu du travail aujourd'hui qui sortent de pandémie, qui sont en requestionnement, qui ont le marché du travail évolue extrêmement rapidement en étant en crise économique, en même temps pénurie de main-d'œuvre, il y a plein de choses qui se brassent. Puis il y a une question qui ressort tout le temps, puis je trouve qui est très mobilisante pour une main-d'œuvre, surtout la main-d'œuvre qui sort de l'école puis qui intègre le marché du travail, c'est pourquoi? Pourquoi on travaille? Pourquoi on travaille? Pour qui on travaille? Pour quelle cause? Quelles sont les valeurs? Quelle est la mission? Puis pourquoi je me lève le matin pour aller travailler pour cette organisation-là? Je pense qu'il y a peut-être des gestionnaires qui ont des méthodes de travail qui sont un petit peu plus avec une to-do list, ce qui est correct, c'est de dire, ben voici en tant que leader, je te demande de faire ça. Mais en rajoutant ça dans le pourquoi on le fait, puis qu'on ait une discussion aussi par rapport à ça, puis une ouverture à revoir les choses puis à s'adapter, mais c'est là où je trouve qu'il y a une différence par rapport à un marché du travail qui est un petit peu plus traditionnel. Tu sais, on est parti d'une économie qui était très peut-être un petit peu plus industrielle ou une économie où est-ce qu'on travaillait plus avec nos bras puis nos jambes, mais là on est à une économie du savoir et de la créativité, surtout au Québec. Puis à ce moment-là, je pense que le générationnellement, je pense que les gens sur le marché du travail aujourd'hui sont en grande quête de sens, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui arrive à la table avec simplement des choses à exécuter, ben, il va peut-être se planter au niveau de la mobilisation de son équipe, au taux de rétention, au taux de roulement.
Je veux revenir sur un élément que tu as parlé tantôt, tu as parlé de vulnérabilité, tu as parlé de ta propre vulnérabilité, qui, petite parenthèse, je trouve qu'il est un mot qui est mal utilisé, mal compris. Souvent, on parle de vulnérabilité, puis on l'associe souvent à faiblesse ou ce genre de choses-là. Moi, je n'y crois pas. Je pense que de démontrer sa vulnérabilité en tant que gestionnaire et autant que la transparence et la bonne communication est un atout majeur pour un gestionnaire. Ça, c'est mon opinion. J'aimerais t'entendre là-dessus. Mais il y a aussi... J'ai beaucoup de gestionnaires qui m'approchent souvent puis ils me disent « Martin, je trouve ça beau ce que tu fais, c'est que tu te dévoiles, t'en parles à tes employés. » Moi, je serais jamais capable de faire ça. Je sais que j'ai des problèmes d'anxiété ou j'ai eu un burn-out dans le passé, mais je veux pas me mettre en situation de faiblesse face à mes employés. Je veux t'entendre là-dessus sur la notion de vulnérabilité du gestionnaire. Comment faire pour aborder ou faut-il absolument aborder notre côté vulnérable ou nos enjeux qu'on a vécu dans notre vie, est-ce que ça vaut la peine ou c'est, dans certaines circonstances, c'est à proscrire?
J'ai jamais vu où c'était à proscrire. pour vrai, j'essaie de penser. Es-tu déjà quelqu'un qui a comme été un petit peu trop vulnérable avec son équipe? Bon, en tout cas, en 20 ans, ça m'est jamais arrivé de voir ça. Mais par contre, non, on peut juste être gagnant. Tu sais, j'essaie de penser, je suis comme, y a-tu des fois où ça peut être, ben, je pense qu'on peut trop partager ou partager d'une mauvaise façon, ou est-ce qu'on vient simplement déverser une émotion versus la rationaliser. Fait que je pense que ça prend quand même un certain pas de recul à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette vulnérabilité-là. Tu sais, oui, on peut en parler, mais aussi on parle de, bon, ben, what now? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, la gang? Tu sais, puis après ça, de partager toutes nos forces, nos angles morts ensemble, fait en sorte que si on a une équipe diversifiée, bon, on va arriver avec une à la table, en tout cas on l'espère, avec aucun angle mort. Puis je pense que c'est là aussi la richesse de partager justement avec son équipe nos angles morts en tant que gestionnaire va faire en sorte que automatiquement l'équipe va devenir beaucoup plus complète, d'être capable de supporter, de pallier pour le travail de quelqu'un d'autre qui est en situation peut-être un petit peu plus vulnérable une journée ou une période de sa vie, d'être capable d'avoir aussi le pouls de son équipe. Tu sais, comment toi, Martin, tu peux arriver au travail en faisant semblant que ça va bien? Puis si on n'a pas eu cette discussion-là, je pourrais mettre ça sur, par exemple, sur le dos de ta pauvre performance puis appliquer des mesures disciplinaires. Tandis que si on avait eu une discussion authentique par rapport à comment ça va vraiment, peut-être qu'il y a des moyens qu'on aurait pu prendre ensemble pour pallier à ça, en amont, versus gérer les dégâts après. Fait que je pense que d'avoir cette conversation-là ouverte avec son équipe va faire en sorte qu'on va éviter beaucoup de problèmes, mais aussi prévenir beaucoup de dégâts qui peuvent affecter les êtres humains. Là. T'sais, quand on parle de burn-out, de départ en congé maladie, d'épuisement, de stress, puis troubles de santé mentale en général, de dépression, ben je pense que ça part par être capable d'en parler, d'en partager, de tout de suite commencer à avoir des moyens préventifs pour faire en sorte que ça arrive pas dans le futur. Mais par contre, si un gestionnaire arrive à la table avec aucune vulnérabilité, très souvent, son équipe va avoir de la difficulté à même en parler.
Fait que tu y vois plus d'avantages que d'inconvénients, ou du moins tu vois très peu d'inconvénients de le faire.
Ouais.
J'ai déjà eu un commentaire. En fait, c'était un commentaire d'une journaliste qui m'avait posé la question. La journaliste m'avait demandé, dans l'éventualité où est-ce qu'un gestionnaire se dévoile, parle de ses enjeux présents ou passés en santé mentale, c'est quoi le plan de contingence pour éviter que la compagnie s'écroule ou que les employés quittent l'organisation? Et je te niaise même pas, là. C'était une question véritable d'une journaliste où est-ce que pour elle, il doit y avoir un plan en place que si le gestionnaire de l'organisation, peu importe la taille, se dévoile, il y aura des dommages collatéraux en termes de rétention, départ, cohésion, d'équipe. Ça me sciait les jambes. Moi, je l'associe, ce type de réaction-là, encore en 2023, au tabou et aux préjugés envers la santé mentale, envers la maladie mentale. C'est-à-dire que si j'en parle, ben je vais peut-être être jugé, alors j'en parlerai pas. Je suis curieux de t'entendre par rapport à ça. Est-ce que tu crois encore en 2023 qu'il existe encore des tabous et des préjugés, surtout pour les gestionnaires, pour dévoiler leur vulnérabilité ou parler de leur enjeu de santé mentale?
Ben, des préjugés, il va toujours y en avoir. T'sais, quand on parle de personnes qui sont un petit peu juste à côté de ce qui est la norme, là, t'sais, quand on parle de diversité, d'inclusion, par rapport à, oui, les backgrounds culturels différents ou juste comment la personne arrive au niveau mental, il y en a toujours, puis il y en aura toujours des préjugés. Par contre, puis là, c'est pas juste une croyance que j'ai. Tu me demandais, est-ce que tu crois? C'est pas juste une croyance. Il y a beaucoup de data qui existent que d'avoir des principes de gestion basés sur la transparence et l'authenticité vient augmenter le taux de mobilisation, vient faire baisser le taux de roulement dans les entreprises, puis vient faire en sorte qu'on a des cultures d'entreprise qui sont dynamiques, qui sont inclusives, puis qui viennent même favoriser l'innovation, vient avoir un impact direct sur les revenus d'une entreprise aussi. Donc, moi, je suis plus de l'école de pensée contraire où est-ce que quand on a des mécanismes de transparence et d'authenticité à l'interne, puis des principes de gestion qui sont quand même encadrés, quand même clairs, alignés, mais très transparents et humains, ça va avoir un impact énorme sur la productivité. Puis ça, Google, Harvard, MIT ont des études incroyables justement sur le big data là, par rapport à la rétention de la main-d'œuvre.
Te glisser inclusion. J'aimerais aller dans cette direction. Depuis quelques années, on parle beaucoup de DEI, diversité, équité, inclusion dans le monde du travail. J'y adhère à 100%. Je te dirais des trois thèmes ou du moins des trois lettres, je trouve que la lettre I est peut-être le parent pauvre. On parle beaucoup de diversité avec raison, d'équité encore plus. Inclusion, et là je fais un parallèle avec la maladie mentale, je trouve qu'on en parle le moins. Donc, comment on inclut dans le monde du travail ou comment on fait pour ne pas exclure les gens qui vivent avec un enjeu de santé mentale du monde du travail ou les tasser parce qu'on se dit, ben eux vont être moins productifs parce qu'ils font de l'anxiété ou ils ont eu un burn-out. J'aimerais t'entendre sur cette notion d'inclusion. Mais c'est d'un point de vue handicap. Quand je parle handicap, là, je parle de santé mentale, je parle de bien-être psychologique.
Oui. Tu sais, c'est vrai, moi, je fais toujours l'image de la diversité, c'est d'avoir des gens de plein de backgrounds différents autour d'une table qui inclut tout l'arc-en-ciel de diversité, incluant la santé mentale, donc autour d'une table, dans un party. Et l'inclusion, c'est d'être invité à danser. Puis c'est là où est-ce que souvent on a des bonnes intentions en ayant des équipes diverses, mais comment en tant qu'organisation on s'adapte à des gens différents, c'est là où la clé est au niveau de l'inclusion. J'ai eu la chance aujourd'hui, ce midi, avec mon équipe, d'avoir une conférence par Julien Villeneuve. Julien Villeneuve est neurodivers. Il nous a parlé de son parcours professionnel. Puis je pense que c'était vraiment inspirant d'ailleurs. Je vous invite à faire des recherches à son sujet. Mais je trouve que d'avoir ce dialogue-là au niveau des accommodements va faire en sorte qu'on va venir apporter encore une richesse plus grande aux organisations. Puis ça passe par la curiosité. Je trouve que quand on est dans la bienveillance, d'être curieux pour l'autre, puis d'être curieux à savoir comment on peut s'adapter à quelqu'un qui est différent de nous, va nous apporter une extrême grande richesse en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'organisation. Tu sais, moi, je connais des gens qui sont sur le spectre de l'autisme, qui sont neurodivers, qui sont très anxieux, m'incluant, dans des positions de leadership, qui font un excellent travail. Puis ça, encore une fois, ça passe par la connaissance de soi-même, mais ça passe aussi par qu'est-ce que les organisations sont prêtes à faire au niveau des accommodements qui sont souvent très minimes. Souvent, on parle juste de conversation, moyen et adaptation pour faire en sorte que cette main-d'œuvre-là, ben, un, intègre le marché du travail, ce qui fait en sorte qu'on vient pallier à la pénurie de main-d'œuvre du fait même parce qu'on s'adresse à un plus grand bassin, mais vient aussi peut-être apporter des nouvelles idées puis des nouveaux angles aussi à notre produit en tant qu'organisation. Donc, moi, je trouve que cette notion d'inclusion-là passe par la curiosité puis la bienveillance. Puis une fois qu'on était capable de créer cette conversation-là puis ces accommodements-là, ben, il y a plein de belles choses qui arrivent au sein des organisations.
Écoute, je suis d'accord avec toi. Moi, pour la petite histoire, je suis sur le conseil d'administration de l'Arimage. L'Arimage est un organisme qui s'occupe et fait de la recherche d'emploi, mais aussi de l'intégration dans le marché du travail, dans le milieu de travail pour les personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. C'est pas de farce, là. Ils ont trop de jobs. De plus en plus d'organisations, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec les enjeux de rétention d'employés, ben se retournent vers des organismes comme l'Arimage de dire, écoute, moi je suis curieux, comme tu le dis, je suis ouvert à justement intégrer des employés, et ils ne voient pas cet enjeu qui peut être important. Là, on parle de gens parfois qui vivent avec la schizophrénie, avec un trouble de bipolarité. Donc, c'est des enjeux qui nécessitent un suivi régulier et qui parfois peut causer certains malaises, hein, au sein des organisations, là. Et les histoires de réussite sont incroyables. Sont incroyables. Lorsqu'on donne une chance à ces gens-là, ça devient des personnes clés dans les organisations, et on voit qu'ils vont se donner corps et âme parce qu'on a fait confiance, on leur a fait confiance et on a fait confiance à leur expertise. Et
Mais si
ben, je
je peux
terminerai.
rajouter quelque
Oui,
chose,
vas-y, bien sûr, bien
Martin,
sûr.
juste par rapport aux accommodements, puis c'est une clé que j'aimerais t'offrir parce que c'est Julien ce midi qui m'a dit ça, tu sais. Souvent, là, j'en rencontre des leaders puis des organisations qui sont comme, hey, on veut bien, là, mais on ne sait pas comment s'adapter à cette
Exact.
main-d'œuvre-là. Puis là, ils se cassent la tête dans des bureaux, puis là, ils sont comme devant leur laptop, les deux mains d'en face. Puis moi, je leur pose une question, puis je leur dis toujours, leur avez-vous demandé? Puis Julien, aujourd'hui, il me dit, hey, la chose la plus fun que très peu d'organisations font, c'est qu'ils se cassent la tête à savoir comment ils peuvent s'adapter à moi. Puis il s'agit simplement de me poser la question. On veut s'adapter à toi. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air simple, mais moi, j'en connais plein qui se cassent la tête puis qui n'ont jamais pensé à leur demander. Puis ça, c'est juste une petite clé pour être capable. Ben, on peut-tu demander à la personne concernée avant de se casser la tête dans des focus groups, des comités exécutifs, tu sais, bref. Parenthèse, mais juste leur avez-vous demandé? Là, c'est souvent des choses que je pose comme question, puis les gens disent j'ai jamais pensé à ça, quelle bonne idée!
Ah, tout à fait, ça revient à l'élément de transparence qu'on a parlé tantôt, puis d'ouverture, et mon Dieu, t'as tout à fait raison. J'aimerais terminer en te demandant de nous parler de Rome, qui est ton bébé, qui est l'organisation pour laquelle tu travailles, que tu as fondée. C'est quoi la particularité de Rome? C'est quoi sa force?
Ça vient dans le titre un petit peu, ressources et
Mmh.
humains. Je pense que les humains ne sont pas des ressources, mais les humains nous apportent des ressources. La particularité qu'on a, je pense que bon, on n'est pas plus spécial qu'un autre, là, mais j'aime bien mon organisation pour les industries dans lesquelles on travaille. Tu sais, j'ai la chance de travailler en créativité et innovation là, avec des clients extraordinaires sur des gros projets cinématographiques, de jeux événementiels, etc. Mais un petit peu plus profondément ça, je pense que la raison pourquoi je voulais me partir en affaires, c'était de créer cet environnement-là, justement, inclusif, bienveillant. On dit toujours no bullshit, là, mais je veux juste dire comme justement cette notion-là de transparence. Puis ce crédit-là, je le donne à moi et aux membres de mon équipe là, pour créer ça, t'sais, cette bienveillance-là. Fait que je trouve que d'essayer d'être porteur de messages par rapport à cette bienveillance-là au sein des organisations, ça fait partie d'une des plus grandes fiertés que j'ai là, par rapport à moi et l'équipe là, au niveau du travail qu'on fait dans les organisations hein, quand on intervient, que ce soit en politique RH inclusive, en coaching, en accompagnement de gestion, en développement de plan de leadership, ces choses-là, moi, je vois la magie opérer dans les gens avec qui on travaille, puis ça, c'est un siège très privilégié à avoir, là, je trouve, en tant que dirigeant.
Pierre-Luc, un grand merci. Superbe entrevue. J'espère que tu as apprécié. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça fait grand plaisir. Merci. Je reviens quand tu veux.
Et ça conclut l'épisode 31 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Premièrement, un grand merci à mon invité, Pierre-Luc Labbé, président et CEO de la firme en ressources humaines ROM. J'espère que vous avez apprécié cet épisode tout spécial pour les gestionnaires. Si vous êtes un gestionnaire, si ça vous a touché, bien, on vous invite à communiquer avec nous, à nous laisser un commentaire. J'espère que vous avez également appris des choses. C'est le but de ce podcast. Pour tous les autres, bien, j'espère que vous avez aussi apprécié l'épisode. Sachez que vous pouvez écouter l'épisode précédent et bien sûr les futurs en visitant notre site web entrelesdeuxoreilles.ca. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Et sur ce, bien, je vous remercie d'être assidus et d'apprécier notre podcast. Lydia et moi, on a bien du plaisir à le faire. On vous voit très bientôt pour l'épisode 32 du balado en santé mentale et santé mieux-être entre les deux oreilles. Et je vous dis à la prochaine.